I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Et donc, forcément, on va spoiler. Donc, si vous n'aimez pas ça, je vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. À mes côtés cette semaine, des chroniqueurs pas toujours sages comme des images, mais on leur pardonne parce que leurs analyses pointues sont autant de cadeaux à écouter. Salut Marie.
Salut.
Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et on accueille un nouveau venu aujourd'hui. Salut Pierrick.
Bonjour Clémence.
Bienvenue parmi nous.
Merci beaucoup de me recevoir, c'est très gentil.
Ça fait plaisir
de rejoindre l'équipe.
On est très content de t'avoir avec nous. À la technique, moitié Père Fouettard avec l'équipe, moitié Père Noël avec les auditeurs. Il charbonne dur pour nous livrer de jolis podcasts en temps et en heure. Bonjour Alain.
Salut Clémence.
Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Un grand merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. On ne le dira jamais assez, mais cette émission existe grâce à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de vous. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, c'est la fin du monde! Non, pardon, c'est la sortie de Don't Look Up. La fin du monde, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans à peu près 6 mois. La faute à une énorme comète qui fonce tout droit vers la Terre, une de celles qu'on appelle les tueuses de planètes. Cette comète, elle a été découverte par 2 astronomes, Dr Randall Mindy et sa doctorante Kate DiBiaschi. Ensemble, ils vont tout faire pour alerter les autorités et la population, mais ils vont avoir du mal à se faire entendre. Pour cette comédie de Noël, signée Netflix, la plateforme au N rouge a mis les petits plats dans les grands avec Adam McKay à la réalisation. Ces dernières années, il s'était intéressé à la politique avec Vice en 2018 ou au monde de la finance avec The Big Short en 2015. Aujourd'hui, il revient à la comédie, un genre qu'il avait propulsé sur le devant de la scène avec Anchorman, la légende de Ron Burgundy, Frangin malgré eux ou encore Very Bad Cops. Côté casting, on est aussi très bien servi. Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio se partagent le haut de l'affiche, mais les seconds rôles ne sont pas en reste. On retrouve entre autres Jonah Hill, Meryl Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan, Kit Cudi ou encore Timothée Chalamet. Donc Look Up sera dispo sur Netflix à partir du 24 décembre. Alors, si vous regardez ce qu'il se passe là-haut, c'est quoi votre météo ? Eric, tu nous fais l'honneur de commencer ?
La météo sur Don't Look Up... c'est un crépuscule joyeux ou très triste, mais crépuscule.
Un crépuscule. Marie ?
Moi, j'ai une petite éclaircie de printemps.
Ok.
Une belle pluie de météorites qui déblaye un peu tout le monde sur son passage, quoi.
Très bien. Alors, on va voir ça en détail tout de suite. Alors, Pierrick, puisque tu es nouveau parmi nous, tu vas inaugurer.
Hein. Alors, moi, je ne connais pas très, très bien toute la filmographie d'Adam McKay. Hein. J'ai surtout apprécié Step Brothers, qui est pour moi une des meilleures comédies.
Un chef-d'œuvre.
Ouais, enfin, certainement une des meilleures comédies de ces 20 dernières années. Enfin, vraiment, j'ai rarement autant ri devant ce film. Et j'ai pas vu Vice, mais j'ai vu le précédent, là, The Big Short, c'est ça ? Et il y avait un style assez. Je dirais pas satirique, mais c'était entre le documentaire et le côté un peu grinçant, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des portraits, enfin des caractères, enfin etc. qui étaient quand même assez croquignolesque, quoi. Et en même temps, ça, c'était assez renseigné sur ce qui s'était passé, voilà, sur cette crise, le début de cette crise économique. Donc j'en étais resté là. Après, Vice, je sais que ça parle de politique. Et là, en fait, je trouve qu'il y a une évolution, en fait, dans cette carrière, puisque, en fait, on retrouve le côté à la fois hyper politique, mais aussi le côté comédie à fond, quoi, à fond les ballons. Donc ça désigne quand même à tout va, et je trouve ça plutôt réjouissant. Moi, je me suis vraiment beaucoup marré, plus sur les dialogues, en fait. Je trouve que les dialogues sont vraiment hyper pointus. Il y a beaucoup de références à beaucoup de choses, de la pop culture, de trucs de com, de market, même les journaux en prennent plein leur tronche. Enfin, c'est vraiment tout le monde en prend pour son grade. Et puis
les communicants en général. Hein.
Ouais, les communicants. Puis voilà, c'est ça, la communication qui en fait domine le monde, mais à un point où on a du mal à même se rendre compte. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis surtout, c'est bien fait parce que les personnages, il y a des vraies trajectoires pour tous les personnages, que ce soit celui de Jennifer Lawrence, celui de Leonardo DiCaprio. J'étais vraiment étonné en fait des personnages qu'il arrive à donner des trajectoires qui sont hyper intéressantes. Et puis voilà, il y a ce côté, on en parlait un peu avec Stéphane avant, mais le côté idiocratie, quoi. C'est-à-dire que ça a été prophétisé il y a quelques années et on y est en plein dedans, sauf que effectivement c'est pas juste les gens qui sont des moutons, c'est aussi maintenant nos dirigeants et qui regardent là où ça les intéresse de regarder, mais qui regardent pas où se passe l'essentiel en fait des problèmes. Et donc voilà, donc cette course à la montre, enfin surtout je trouve que le début est vraiment très brillant en fait, la présentation des personnages, la présentation des enjeux, quand ils sont reçus à la Maison Blanche, je trouve ça vraiment brillant. Il y a plein d'idées d'écriture qui sont hyper intéressantes, notamment le personnage du général là, qui leur fait payer les bonbons et la boisson et la bouteille d'eau genre $10, alors qu'ils se rendent compte après coup que c'était gratuit. Donc pendant tout le film, elle se demande
parce qu'ils sont à la Maison Blanche en fait.
Ouais, et en fait tu dis ouais, mais pendant tout le film elle se dit mais pourquoi il m'a fait payer ça en fait, dans quel monde on vit quoi, enfin.
Ça devient l'obsession un peu de ce personnage là.
Ouais, c'est ça, ça devient son obsession. Puis elle, son obsession, c'est que les gens réalisent, et puis que les gens réalisent pas en fait, ils prennent tout ça comme une espèce de truc marketing qui va se transformer en une course économique mondialiste. Enfin, c'est voilà, je trouve ça globalement vraiment très très bien écrit de bout en bout. Et puis le personnage qui est à mi-chemin entre Elon Musk et on va dire le créateur d'Apple là.
Il y a un petit mélange de tout. Il fait aussi penser un peu à Mark Zuckerberg.
Ouais, carrément. Ouais. C'est un mélange de tout ça.
C'est un mélange de tous les patrons.
Il est super bien interprété. Le mec, il est lunaire, quoi. C'est hallucinant. Et voilà. Et tout ce qui est prévu par ce gars-là, on sait que ça va se casser la gueule, et c'est jubilatoire quand ça se casse la gueule. Et en même temps, c'est d'une tristesse absolue parce que bon, je sais pas si on peut raconter la fin, mais c'est quand même.
Ouais, on spoil ici.
Il advient ce qu'on redoutait tous.
Mais c'est vrai que on sort l'épisode 2 jours avant la sortie officielle, donc vraiment faut prévenir les gens que si vous voulez vraiment pas qu'on vous raconte le film avant de le voir, attendez vraiment la sortie sur Netflix, quoi.
Ouais. Et puis globalement, on s'attend à ce qu'il se passe ça. Il se passe
Le film aurait pas d'intérêt s'il se passait pas ça.
Ouais, je pense. Et il y a quand même une pirouette finale qui est quand même hyper intéressante aussi. Enfin voilà, je trouve que globalement moi, j'étais très, très agréablement surpris par la mise en scène et l'écriture d'Adam Menkay, parce que je trouve que c'est la première fois que... Je compare pas avec ses comédies, parce que la mise en scène d'une comédie, c'est toujours un peu différent. Il y a une histoire de rythme. On n'est pas sur le même côté léché des plans, etc. On est plutôt sur l'efficacité du gag. Par contre, sur ce que j'avais vu sur son film politique, enfin, le seul que j'avais vu, j'avais pas été emballé particulièrement par la mise en scène. Je trouvais ça un petit peu austère, etc. Et là, je trouve que ça emballe tout. Les effets fonctionnent tout le temps. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de gras, en fait. Dans le film dure 2h23, enfin 2h20 et quelques. Je trouve qu'il n'y a pas de gras, ça tient la route de bout en bout, quoi. Voilà, mon avis.
Très bien. Effectivement, un crépuscule plutôt...
En fait, c'est à la fois très joyeux et en même temps du triceps absolu, parce que moi, j'avais le sentiment, en voyant le film, de dire, mais en fait, on est en plein dedans, quoi. On vit dans ce monde-là, en fait, en ce moment.
C'est super.
Et c'est ça
réaliste.
Qui est terrifiant, quoi.
À l'inverse d'Idiocratie, qui pour le coup se projette dans un futur hypothétique.
Et
là,
puis
c'est...
qui charge la mule. Enfin, là aussi, ça charge la mule, mais il y a un côté. On y est quand même. Enfin, on sent... Moi, ce qui m'a le plus effrayé, c'est le passage. Quand ils sont à la rédaction des journaux, là. Où en gros, je sais plus si c'est New York Times ou Herald Tribune ou un truc comme ça. Et en fait, on les prépare, donc on leur parle de media training, etc. Enfin, ce qui est quand même juste effrayant, quoi, quand on pense à ce qu'ils veulent raconter. Et puis après coup, bah, leur passage à la télé est catastrophique. Et finalement, on leur dit ah, mais les gars, vous n'avez pas été bons à la télé, donc la news, on ne va pas la sortir en fait. Parce que c'est, vous n'avez pas.
Oui, ils disent
vous
pas personne ne reprend la news à part vite ça. Fait en Espagne et je ne sais pas quoi.
Il n'y a que des trucs sur Twitter qui vous foutent de votre gueule et globalement, vous n'êtes pas crédible, donc on ne va pas sortir la news. Et ça, c'est effarant parce que je crains malheureusement qu'on n'en soit pas loin. Quoi.
C'est-à-dire que le film est quand même une belle allégorie de tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique et l'environnement.
Exactement.
Aujourd'hui. Hein.
C'est-à-dire qu'on ne regarde pas où là où il faut regarder. Quoi.
Il tire la sonnette d'alarme depuis longtemps et on voit le mur venir et en fait, il arrive et il n'y a rien qui est fait.
Puis le film prend un autre écho aussi avec, avec la pandémie où tu vois toute la gestion de crise où la présidente, donc, qui est jouée par Meryl Streep, qui est une espèce de, plus ou moins d'alter ego de Donald Trump, qui dit ouais mais là en fait ça m'arrange pas trop parce que en fait il y a les élections du midterm donc là c'est pas vraiment le bon timing et en gros on les envoie enfin déjà on les fait poireauter pendant une heure dans un couloir enfin une heure plus bien plus qu'une heure en fait et en fait quand ils finissent par les recevoir et donc ils annoncent quand même qu'une météorite va frapper la Terre et détruire la Terre dans 6 mois c'est pas juste on pense que c'est genre tout est vérifié c'est recoupé par la NASA c'est 100% sûr. Et en fait, ouais, mais ça m'arrange pas trop maintenant. Et le seul moment où ils les font revenir, où ils leur disent, bon, en fait, on va s'en occuper, c'est parce qu'il y a un scandale sexuel qui va sortir, parce qu'elle a envoyé une photo d'elle, machin, et il y a un truc qui va leaker, qui va sortir. Donc, bah, finalement, là, en fait, c'est une stratégie média qui fait qu'on va s'intéresser au problème et pas la gravité du problème en elle-même, quoi.
Et ça, c'est, tiens, ça va nous faire regagner des points dans les sondages, donc... Allons nous occuper de ce problème maintenant, alors qu'il y a 2 semaines, on s'en fichait complètement.
Et il y a tout ce truc-là autour du personnage de DiCaprio, du coup, tout le monde est autour de lui parce qu'il est super bien vu dans les sondages, donc, alors que le personnage de Jennifer Lawrence reste en retrait, alors que le personnage, en plus, il est super attachant et tout, mais on la laisse toujours en retrait parce que comme elle a pété un câble à la télé, elle est devenue un mème sur Internet. Et voilà, il y a tout ce côté-là qui reprend vraiment Donald Trump. Moi, j'aime beaucoup cette scène du meeting où ils ont leur casquette « Don't look up » parce que, donc évidemment, il y a une chanson, on n'en a pas parlé, mais la chanson d'Ariana Grande qui joue le rôle de je ne sais pas quelle star, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film, parce que aussi, c'est aussi un truc où les gens ne sont pas intéressés par la news de la fin du monde parce qu'il y a cette star et son mec qui est interprété par Kid Cudi qui se séparent. Et du coup, là, c'est le truc dont tout le monde parle sur les réseaux et pas de la fin du monde annoncée. Et donc elle interprète cette chanson donc Look Up, enfin Don't Look Up pour qu'il regarde en l'air et parce que voilà parce que littéralement à un moment dans le film on finit par la voir la météorite qui s'approche et en fait il y a cette scène assez drôle dans le meeting où ils ont leurs casquettes comme les casquettes de Trump Make America Great Again et là c'est la casquette Don't Look Up et ils finissent par regarder en l'air et ils font ah putain mais en fait elle est là la météorite
on nous a menti.
Mais genre vous nous avez menti et tu dis mais c'est fou parce que en fait c'est vraiment l'humour enfin la scène en elle-même est absurde mais tu te rends compte que oui bah ça fait un peu écho à tous les gens complotistes aujourd'hui et c'est en fait c'est ce que tu disais Pierrick c'est que tu ris mais en même temps tu ris pas parce que tu dis bah la scène en elle-même est drôle et moi j'aime bien cet humour absurde là d'Adam McKay parce que comme on disait aussi tout à l'heure moi je suis très fan des Anchorman de tous ces films avec Will Ferrell et John C. Reilly et là du coup quand tu vois ça tu dis c'est cet humour absurde mais qui est mis au service d'un message plus ou moins politique et ça se rejoint du coup tu ris mais en fait tu ris pas
tu ris jaune quoi
ouais exactement
tu ris jaune bah c'est vrai que ouais en le présentant le film je me disais faut que je le présente comme une comédie mais est-ce que vraiment on peut parler de comédie parce que le fond de l'histoire est pas rigolo
ouais c'est ça c'est un peu une synthèse de un peu des deux types de films qu'il a fait jusqu'à présent où il faisait des comédies ou des films un peu plus politiques ou avec plus de messages là j'ai l'impression qu'il est en train de rejoindre les deux. Donc bon, on en parlait tout à l'heure en antenne, moi je préférais, enfin moi j'aime bien les comédies absurdes qu'il faisait, avec Will Ferrell où vraiment c'était plus axé sur la comédie, j'ai eu un peu plus de mal avec celui-là mais peut-être aussi parce que le sujet est trop, en fait est trop réaliste et trop, enfin je peux pas rire sur ça comme je ris évidemment sur Will Ferrell qui joue Ron Burgundy et qui est le pire des mecs toxiques du monde quoi, donc c'est plus difficile de rire sur ça, enfin on peut pas rire au premier degré sur ça quoi.
Ouais, la destruction de la planète, ça t'amuse pas?
Si, mais ça fait beaucoup rire.
Non, mais le film, de toute façon, il est présenté comme une comédie. Hein. Il le dit lui-même. Hein. Pour lui, c'en est une. Hein.
Ah bah, c'est vendu comme la comédie de Noël de Netflix. Hein.
Alors voilà, ce qui est marrant, c'est qu'il a eu des critiques, pas négatives, mais en tout cas, de gens qui ont été déçus parce qu'ils disent que c'est un peu déprimant. Et en même temps, c'est sa logique, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait un film sur... toute l'idée du film, c'est de dire, en gros, on sait qu'il y a un problème avec le changement climatique et personne ne fait vraiment rien. Tu vois, et en gros, ce qui se passerait, c'est que c'est ce que le film raconte. Et si on fait vraiment rien, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quand même tomber sur la gueule. Donc le truc, c'est que là, c'est la logique du film. Il est obligé. Le film aura aucun intérêt en fait si on traitait pas le sujet à fond les caisses quoi. Après, moi, je dirais, Je rajouterais quand même que toutes ces comédies sont politiques, en vrai, à Adam McKay, depuis le début, quoi. C'est-à-dire, Pierrick fait un peu la fine bouche, mais...
Non, sur Step Brothers, c'est sociétal, Step Brothers, éventuellement.
C'est peut-être plus discutable, parce qu'en fait, le truc de Step Brothers, c'est que je pense qu'il parle surtout d'une... Comment dire... De quarantenaires qui sont infoutus de grandir, et mine de rien, on est en plein dedans, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Mais avec tous les films... Enfin, je veux dire, Marvel, c'est une représentation de ça, hein, pour moi, hein. Même si je suis pas sûr que dans sa tête, ce soit forcément ça. Il y a de ça, quoi. Et, mais par contre, Anchorman, c'est clairement une comédie sur la guerre des sexes. Talladega Nights, c'est clairement une comédie sur comment dire, la Bible Belt. C'est Ricky Bobby, roi du circuit, son deuxième film. Bon, Very Bad Cops, c'était, y avait le comment on appelle ça, il parlait déjà de la crise des subprimes, en fait, dedans, quoi. Hein, et en toile de fond, même si c'était moins évident, quoi. C'est à New York, il y a Wall Street, il y a tout ça. Et Anchorman 2, c'est comment Ron Burgundy a inventé l'infotainment, quoi. Et donc, quelque part, Anchorman 2, c'est la préquelle de Don't Look Up, parce que c'est ce dont le film parle, en fait. C'est-à-dire que en vrai, moi, ce que je trouve vraiment passionnant dans le film, et c'est pour ça que je le rejoins, en fait, sur Idiocratie. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup moins gaguesque, c'est-à-dire c'est beaucoup moins dans l'humour absurde, mais par contre, en fait, il y a un truc que ne faisait pas Par la force des choses, puisqu'il date de 2006, en fait, Idiocratie, c'est qu'il parle pas des réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment le truc le plus, je trouve, réjouissant dans le film. C'est cette façon, en fait, de défoncer la logique, en fait, des réseaux sociaux, mais à tout va, quoi. C'est-à-dire dans Don't Look Up, quoi. Parce que on parle du personnage d'Ariana Grande, mais c'est voilà, en fait, c'est on parle des
influenceurs.
Voilà, c'est du mec qui jette le mec qui est avec Jennifer Lawrence, puis... qui la jette en fait sous le camion quand il s'agit de faire un article pour dire j'ai couché avec cette fille. Ouais. Elle est à moitié folle, quoi.
Il y a l'info virale aussi, l'info virale qui est représentée par les passants. Quand ils entendent la conversation, ils s'arrêtent, ils disent « Ah, mais vous parlez de quoi, là, de la fin du monde ?»« Non, non, c'est bon, c'est pour
c'est
un jeu vidéo.
» Ouais. Voilà,
plusieurs fois, ça revient dans le film.
Voilà,
ça.
Et il inclut ça, en fait, si tu veux, dans le truc. Et c'est, mine de rien, en fait, ça fait maintenant 10-15 ans que les réseaux sociaux sont vraiment hyper fondamentaux dans notre société. On peut difficilement passer à côté. Ta grand-mère, elle est sur Facebook. Donc le truc, si tu veux, c'est qu'au bout d'un moment, ça a un impact. Et cet impact, il n'est jamais montré au cinéma. C'est-à-dire, ça fait jamais partie de la narration en fait d'un film. Quasiment le seul, là, ces derniers temps, vous avez fait une émission là qui sortira la semaine prochaine sur Belle, où c'est dedans. Tu vois, les réseaux sociaux, on en parle parce que c'est hyper important. Mais le truc, le film de Mamoru Soda. Mais au-delà de ce genre de film-là, c'est rarement, en général, c'est un truc de plot en fait très rapide.
Oui, c'est peu traité de manière intégrée finalement à l'histoire.
Voilà. Et là, ça fait vraiment partie du film. C'est-à-dire, ça fait partie intégrante du film. C'est le problème, il vient aussi de là.
Il y a un truc sur la notoriété en général aussi, c'est que par exemple la première fois que DiCaprio appelle en tant que, je sais plus, les directeurs de recherche ou pas quoi, de son université du Michigan, et la première fois qu'il appelle le gars de la NASA, il s'excuse presque de l'appeler en lui disant « Excusez-moi de vous déranger, vous me connaissez pas, je publie peu, etc. » Donc déjà ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'en gros vous allez pas me croire parce que je suis pas assez connu pour que vous puissiez me croire. Et puis ça prend une ampleur pas possible par la suite avec les réseaux sociaux, etc. Où en fait, en gros, tu n'existes que si Ariana Grande en fait une chanson, quoi, de ton sujet.
Il y a ça, il y a la façon. Alors parce que moi, c'est la même chose, mais en même temps, c'est important de. Ça prend d'autres proportions aussi derrière, c'est qu'il y a la façon dont il chie sur les GAFA, quoi, tu vois. Parce que. Et moi, je trouve que c'est presque qu'il pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'il a fait parce que c'est marrant que. Il y a un vaisseau spatial en forme de bit comme celui d'Elon Musk, mais le truc, si tu veux, c'est que en gros, je trouve qu'en fait, et ce personnage qui est joué par comment il s'appelle cet acteur qui était dans comment dire dans les Spielberg là, j'ai un trou.
Celui qui joue le milliardaire là.
Ouais ouais. C'est une relecture du
Mark Rylance.
Mark Rylance, merci ouais. Alain, tu vois. Alain, il a un micro juste pour nous souffler les mots, parce qu'en fait, on note pas les mots, on note pas les gens, quoi. Mark Rylance, il fait plus ou moins le rôle qu'il a dans Ready Player One, hein, en moins sage, en plus, caractériel et voilà, quoi. Mais par contre, le truc, alors je trouve que c'est un des petits trucs, je trouve, c'est presque une facilité, je trouve, en fait, de choisir cet acteur-là pour ce rôle-là, quoi. Mais c'est vrai que, par contre, cette espèce de mélange-là, c'est important d'expliquer qu'à un moment donné, on se fait un peu baiser par tous ces gens, en fait, si tu veux, qui ont tellement d'argent que
Oui, puis
ils touchent plus terre, quoi, tu vois. Et...
Sous ses côtés lunaires, il a quand même tout son master plan dans la tête. C'est-à-dire que quand à un moment, il menace DiCaprio, etc., bah, tout est écrit, tout est scripté, comme il dit, hein, j'ai toutes les infos sur toi, enfin...
Et c'est terrifiant, quoi. Enfin,
ouais, c'est, je
surtout
compile,
qu'on le sait, ça aussi, en fait.
C'est ça, il résume. Je compile depuis 2004 toutes les infos possibles et imaginables sur toi, et je sais comment tu vas mourir avant même que toi, tu sois au courant.
Et c'est ça qui est paradoxal dans le film, c'est qu'à un moment, quand lui va lancer son projet concurrent, entre guillemets, on a envie que ça se casse la gueule. Alors qu'en fait, tu te dis, bah merde, si ça se casse la gueule, c'est con, c'est quand même leur dernier espoir, quoi. Mmh. Ils ont vraiment tout évacué. Et c'est ça, le film est assez fort là-dessus, c'est-à-dire que t'as une espèce d'ambivalence, tu te dis, bah, en fait, vous êtes tellement con qu'on a vraiment envie que vous creviez, et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais c'est un peu le monde dans lequel on vit, donc c'est pas cool, quoi. Si on ne reste que 6 mois à vivre et qu'on réagit comme ça, et c'est un peu, voilà, la course à l'écologie, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est carrément ça, quoi.
Et ce qui est intéressant dans le style, alors tu parlais un peu du style tout à l'heure, là, de d'Adam McKay, qui a un peu changé. Moi, par exemple, le style visuel, alors moi, j'ai beau adorer ses films, hein, même si, par exemple, Talladega Nights, il essaye un petit peu de faire des vraies courses de bagnole sur le circuit et tout, qui fonctionnent plutôt bien. Ça reste quand même hyper plan-plan, moi, son style visuel. Et là, il faut savoir que c'est un mec, en fait, Adam McKay, qui vient de l'impro. Il y a une grosse école d'impro, en fait, dans la comédie américaine, hein, Will Ferrell, c'est évident qu'il vient de là, voilà, enfin, pour ceux qui... Voilà, mais Adam McKay aussi, en fait, a un background là-dedans. Et ça, en fait, il sollicite tellement de l'impro qu'il est capable de faire deux montages de films différents, en fait, notamment sur le premier Anchorman, c'est ce qui s'était passé. Moi j'avais acheté, parce que le film est sorti en France très très, tardivement, j'avais acheté le DVD aux États-Unis pour pouvoir le voir, et j'avais acheté du coup le DVD avec un film en plus, c'était déjà un carton le film aux États-Unis, Anchorman, qui est un film qui est la entre guillemets la fausse suite d'Anchorman, parce qu'en fait ils avaient tellement de prises, alors c'est pas aussi bien, hein, tu vois, que le premier Anchorman, mais il y avait tellement de prises à part, que, en gros, ça s'appelait, je crois, Wake Up Ron Burgundy, il y a tellement de prises à part qu'il était capable de faire un film qui racontait littéralement autre chose que le premier Ron Burgundy, alors qu'en fait, c'était sur le même tournage, avec les mêmes acteurs, avec plus ou moins le même sujet, quoi. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette espèce de logique de, comment dire, d'impro, il l'a plus ou moins adapté à son style visuel, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un film qui utilise énormément de stock shots, de plein de scènes, en fait, un peu partout dans le monde, quoi. Et qui, moi, je trouve, retranscrit vachement bien l'urgence de ce que tu ressens, en fait, comme problématique. Je pense que ça participe même au côté un peu anxiogène du film, quoi, d'avoir des plans de Tokyo là, d'avoir des plans de à un moment donné, quand les premiers bouts d'astéroïdes commencent à arriver, en gros, t'as un ours qui se retrouve au milieu d'un supermarché. Et tous ces trucs-là, apparemment, c'est des trucs qu'ils ont shooté eux-mêmes. C'est-à-dire à 90%, ils n'ont pas pris de stock shot, ils sont vraiment allés les faire eux-mêmes pour essayer de... Voilà. Et tu peux penser qu'ils en utilisent un certain pourcentage et qu'à mon avis, il y avait tout un tas d'idées en fait, qu'ils ont créées, qu'ils devaient avoir une équipe spéciale pour faire ces plans. Et là aussi, je pense qu'en fait, il pourrait y avoir un autre montage en fait, pour raconter le truc sensiblement différemment. Quoi. Et c'est là où... c'est presque dommage, parce que moi, je trouve que c'est un excellent film. Et c'est presque dommage en fait, que ça soit que sur Netflix en fait, qu'on puisse le voir. Parce que c'est un film qui mérite vraiment en fait de sortir en salle, qui à mon avis serait planté comme apparemment tout se plante en salle en ce moment quand c'est pas Spider-Man, ouais. Mais c'est dommage quoi, parce que voilà, après bon, est-ce que c'est vraiment un film de Noël pour le coup, je sais pas ce que
pour passer de bonnes fêtes, ouais.
Je sais pas comment Noël, Netflix va le recevoir,
ouais,
le truc. Hein, mais...
Je suis étonné qu'il le sorte là comme ça, c'est le 24, c'est ça
le jeu de Noël, ouais. Décembre, ouais.
Franchement, c'est une comédie, mais c'est une comédie acide quoi, enfin voilà. Moi, je me suis marré sur des trucs où effectivement, tu te marres parce que c'est bien vu, que voilà, que ça résume bien la situation et que les présentateurs télé, etc., ils sont super drôles, c'est hyper bien écrit, mais tu ris jaune, quoi. Enfin, voilà, tu te marres et tu te dis, ouais, quand même, on n'en est pas loin, on en est à deux doigts, même. Et puis, mine de rien, t'es quand même... Enfin, c'est pour ça que moi aussi, je aurais préféré le voir au cinéma, c'est que t'es quand même sacrément cueilli par l'émotion à la fin, quand même. La scène de fin, elle est quand même assez... elle y va, quoi. Enfin,
elle est intense.
Elle est super bien foutue, et puis elle est belle. Enfin, dans l'idée, elle est vachement belle, qu'ils se retrouvent tous, etc. Enfin, bon, on va
table,
pas
raconter.
Ouais, ce repas de
c'est super beau. Le repas de fin, là, tu fais, waouh, c'est chaud. Ils le savent, ils l'attendent, et ça vient, quoi.
C'est marrant, parce que moi, un des plans les plus tristes du film, et je l'ai vu deux fois, parce que j'ai pu le voir en projo, parce que, en fait, en gros, j'ai interviewé, donc... Je me fais un petit peu vite fait ma promo, mais en fait, il y aura une interview d'Adam McKay sur Rockyrama, sur le site. Et du coup, j'ai vu le film en salle, et ça a remarché en le revoyant une deuxième fois pour le podcast. C'est moi le plan qui m'a rendu le truc le plus mélancolique et triste, c'est la partouze. Sur les toits de je sais pas, à New York ou un truc comme ça. J'ai trouvé ça le plus triste, en fait. Et je sais même pas, c'est même pas expliqué pourquoi, en fait.
C'est le moment où on voit le toit, et puis en contrebas, il y a des accidents, il y a des trucs
qui
prennent feu,
et
tout
en
ça,
fait, ouais. Ils sont en train de baiser dans un carré VIP, tu vois. Voilà, et c'est la partouze de la fin du monde, quoi, tu vois, ou je sais pas quoi. Mais c'est un truc, en fait, hyper... j'ai trouvé ça hyper... parce que... En fait, il y a ce questionnement de qu'est-ce que tu ferais, en fait, si c'était la fin du monde, tu vois, qui est posé. Et forcément, automatiquement, le film, en fait, il te confronte à tout un tas de points de vue sur ça. Est-ce que tu vas te retrouver ta famille? Est-ce que tu vas te faire une murge? Est-ce que tu vas... Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que du coup, je pense que ça te renvoie toi-même à ce que tu ferais, tu vois, puisqu'il te propose une multitude de choix. Et c'est, je sais pas, ça en dit peut-être quelque chose sur moi, mais moi, en fait, si tu veux, c'est
tu n'iras pas le faire de partout, bah, si c'est la fin du monde.
Mais pourtant, c'est un des trucs auxquels tu pourrais penser. Tu pourrais te dire qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, tu vois.
C'est marrant parce que moi j'avais oublié ce plan, tu vois. Alors que j'ai vu le film il y a deux jours et tu me le rappelles, tu vois, mais j'avais oublié.
Bah, c'est un plan
rapide.
Je
pense que ça dit des choses
truc,
sur toi. Ouais.
Non, mais c'est un truc assez rapide, mais c'est vrai que en gros, ça en dit des choses sur moi, sur la tristesse. Tu vois, attention, s'il vous plaît, tu vois. Ne me va pas me faire traiter de queutard, là. Tu vois, mais c'est vrai que voilà, il y a un truc de le fait de renvoyer, si tu veux, en fait, les gens à la situation. C'est aussi ça qui est fort, c'est ça qui rend, je pense, moi, à mon avis, vraiment la fin triste. Pas que le parcours des personnages et ce qu'ils peuvent se dire, parce que finalement, ce qu'ils se disent, c'est très banal, tu vois, dans le repas, mais vraiment, à mon avis, le renvoi à tous les spectateurs. Et mine de rien, c'est là où je trouve que le film, il a vraiment touché quelque chose du doigt, c'est-à-dire cette capacité à... alors, je sais pas si on peut dire que le film, il est universel, en fait, parce que le sujet, peut l'être en soi, mais par contre, en fait, l'idée même que tu puisses être renvoyé à ta propre, comment dire,
propre condition de mortel,
voilà,
humain.
C'est ça. Et en fait, c'est très très, moi, je trouve ça très très fort, en fait, cette façon. Et c'est vraiment pas uniquement dans la retranscription des personnages, mais vraiment dans tous les trucs différents. Parce que quand ils vont acheter la bouffe, je me suis dit, mais ils la payent la bouffe ou pas? Parce que bon, normalement, tu la payes pas.
Normalement, il y a des émeutes là, souvent.
Ouais,
là.
Voilà, tu peux te barrer avec. Alors, tu vois, voilà.
Il y a un plan, un moment où ils vont faire des courses et le supermarché est dévasté.
Voilà. Et en même temps, qu'est-ce que t'en as à foutre de la payer? Puisque
si tu te dis que dans quelques heures tout sera fini, effectivement, c'est.
Ouais, mais eux, ils veulent finir bien, tu vois. Ils ont une. En fait, ils font un repas de Thanksgiving très normal au final.
Ouais, et d'ailleurs,
c'est ça qui est assez drôle, c'est de voir justement ce repas de Thanksgiving qui a l'air très normal, avec en parallèle ce que font les riches qui s'échappent, qui quittent la planète et tout machin. Et tu vois, c'est
une idée reprise de Roland Emmerich.
C'est deux salles, deux ambiances.
C'est vrai que c'est 2012.
Moi, je sais que en regardant la fin du film, je me suis dit, effectivement, comme t'as dit Stéphane, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'irais faire, moi, si demain c'était la fin du monde? Et en fait, j'aurais envie de faire ça, de faire un dîner avec les gens que j'aime et de pas forcément faire un truc de fou, juste de passer du temps avec les gens qui me sont chers et faire un truc normal une dernière fois.
Je pense que ça pose plein de questions. Ouais.
Voilà. Alors, moi, je pense qu'ils le sortent à Noël parce que c'est, à mon avis, le jour le plus
un jour où beaucoup de gens regardent ça. Mais
beaucoup de gens vont regarder la nouveauté Netflix.
Ouais.
Donc, du coup, ils
se balancent
leur truc prestige, etc. Oui, mais par exemple, l'an dernier, c'était ce film de merde avec George Clooney, Minuit dans l'univers, tu vois.
Qui était bien dépressif, pour le coup.
Ouais, puis était bien chiant, surtout, tu vois. Et bien schmoll, quoi, tu vois. Mais le truc, on en avait fait un podcast, donc je vais pas taper sur le truc plus que de raison, mais par contre, ça avait cartonné. Personne t'en parle du film un an après, quoi. Tu vois, donc je pense
personne
que c'est un jour très important pour eux, en fait, pour Netflix, quoi, pour balancer ça. Mais c'est vrai que ça va être vachement intéressant de voir comment les gens, en fait, vont réagir à ce truc, à regarder ça en famille, en pensant que c'est une comédie, parce que t'as quand même des stars, enfin, il est dingue le casting quoi,
c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais il est incroyable.
Il y a une galerie d'acteurs là. Cate Blanchett, j'ai mis du temps à la reconnaître.
Tout
de suite.
Puis elle est parfaite dans ce rôle de connasse présentatrice qui vient d'une famille, qui parle quatre langues, qui machin.
Je trouve que son rôle est hyper intéressant parce que je m'attendais à ce qu'il se cantonne à un personnage de blonde pas très fut-fut, justement, qui joue les bimbo à la télé. Et en fait, c'est un personnage qui est vraiment écrit et qui est creusé et qui est bien plus que ça.
Qui est très touchant,
et moi, j'aime beaucoup la scène où, du coup, la femme de DiCaprio, du personnage de DiCaprio, va la confronter. Et en fait, j'aime beaucoup l'attitude qu'elle a. Genre, bon, bah maintenant, on fait quoi? On y est. Et elle dit, ouais, c'est bon, tu vas repartir dans le... Elle se rappelait même plus de quel état il vient. Enfin, de toute façon, c'est un running gag sur le truc parce qu'ils viennent du
Michigan.
Moi-même, j'allais oublier, tu vois. Et ouais, je la trouve hyper intéressante. Le personnage de Jonah Hill aussi, qui est le fils de la présidente et son conseiller.
Lui, lui, c'est le fils c'est de Trump,
le...
c'est évident.
Ouais, voilà.
Autant le truc avec le clivage, tu vois, démocrate-républicain, parce que c'est un truc qui lui, enfin, en tout cas, mes collègues, pour ne pas les citer, tu vois, Rafik Djoumi et Arnaud Bordas, ont reproché pas mal ça à Adam McKay sur Vice, en fait, de pas taper sur les démocrates aussi. Faut un peu rendre à César ce qui appartient à César. Les hommes politiques qui font les cocos, en public, ça a commencé avec Obama. Hein. Ça n'a pas commencé avec Trump, tu vois. Et le truc, c'est que quand il faisait du stand-up et tout ça dans sa deuxième, campagne, tu vois, enfin, c'était un peu chaud quand même, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de truc parce que, bon, tu me diras, le fils Bush, en fait, c'était la même chose quand il faisait le couillon avec son golf, hein. Mais Obama, c'était assez permanent, quoi. Donc, du coup, cette pente glissante, il faut être honnête, elle est là depuis que les réseaux sociaux sont là, en fait. En vrai, c'est même pas une question de, comment dire.
Moi, je trouve qu'elle n'est pas présentée tout de suite comme un équivalent Trump au féminin, en fait. Au début,
elle a une très belle photo avec Steven Seagal.
J'ai beaucoup
aimé ce détail.
Effectivement, un peu starfuckeuse, etc. Et qu'elle est là, certainement, il y a eu un moment un projecteur sur elle et elle a réussi à se faire élire, voilà. Mais je trouve qu'elle se trumpise au fil du film, en fait. Elle évolue, elle aussi. Au début, elle n'est pas
moi,
si...
Moi, je pense que c'est un croisement entre Hillary Clinton et Trump.
Pour moi, c'était... Ils ont pris une femme au début, quand je l'ai vu, oui, voilà, c'est ça. Au début, je me suis dit, tiens, ils ont repris Hillary Clinton, ils ont poussé un peu les potards, et puis on y va.
Ouais, elle m'a fait penser à un personnage, donc c'est Meryl Streep. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la série Years and Years, qui est une série qui s'étale sur 10 ans. Ça part de 2020 et ça se finit en 2030. Et on voit l'ascension de celle qui va devenir la présidente américaine, qui est interprétée par Lisa Kudrow, et qui joue une espèce de Trump au féminin. Et ça m'a beaucoup fait penser à ce personnage-là aussi, et qui va mentir comme une arracheuse de dents face caméra, alors que tout le monde en face, elle a dit quelque chose d'absolument inverse 30 secondes avant, et puis elle va se contredire en disant que, voyons, je ne vois pas du tout où est le problème. Et ça m'a fait penser à ce personnage-là un peu aussi.
Après, de toute façon, c'est évident que, vu les électeurs qui sont censés drainer, bon, c'est Trump aussi, hein, dans le truc, quoi. Le personnage de Ron Perlman, il est rigolo, parce que tu vois que les mecs... En fait, alors du coup, je vais poser la question sur Armageddon, mais pour lui...
Ouais,
toute la parce que t'es obligé de penser à Armageddon puisque c'est le même sujet.
Évidemment.
Forcément, quoi. Et je dis bien Armageddon et non pas Deep Impact parce que Deep Impact est un film qui a disparu. Voilà. Mais donc Armageddon est resté, lui, parce que c'est un grand film. Voilà. Il fallait que je le dise, hein. Parce qu'il faut que c'est contractuel. Il faut que je dise du bien de Michael Bay dans chaque podcast. Mais non, le truc, c'est que c'est marrant parce qu'il disait, Armageddon, mais tous les films. C'est-à-dire qu'en fait, tous les Marvel. C'est-à-dire que dans tous les Marvel, les mecs, ils défoncent la moitié de la planète. Et on continue, et alors c'est pas moi qui fais un point Avengers, hein, c'est lui, hein, qui me l'a dit, c'est-à-dire que dans tous les marais, il défonce la... Mais tout va bien parce qu'à la fin, on remet tout dans l'ordre. Donc tout va bien, quoi. Et le principe du film, c'est de dire on peut pas remettre les choses dans l'ordre, c'est pas possible, en fait. Et en fait, si on continue dans cette voie-là, c'est fini, on y va. Et le défaitiste qui est en moi, je pense qu'on y est déjà, en fait, en vrai. On verra dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais le truc, c'est que oui, je pense que, en fait, c'est l'anti... Film catastrophe, c'est l'anti Roland Emmerich, c'est l'anti Armageddon, c'est l'anti voilà, même en comédie, mais c'est même pas une parodie de ça, en fait, c'est vraiment.
Je me faisais une réflexion sur les scènes un peu spectaculaires. Je me dis, tiens, c'est marrant. Je sais pas s'il arrive aussi à trouver le bon équilibre. C'est-à-dire que soit il va trop, soit il va pas assez. Je sais pas, mais elles sont vachement bien foutues, mais elles sont très courtes. Toutes les scènes d'intervention, les décollages, les trucs comme
après,
ça.
Après, je pense que c'est volontaire et que c'est pas ça que tu retiens. Enfin, tu vois, moi, ce que je retiens, c'est plutôt. On en a pas parlé aussi, mais il y a Timothée Chalamet dans une espèce de punk à dread, on sait pas trop quoi là.
Ouais, c'est la jeunesse nihiliste qui a déjà de toute façon lâché la bride.
Et en fait, tu vois.
Sauf que le mec, il sait, comment dire, c'est un mormon apparemment.
Non, c'est pas un mormon.
Non, c'est pas un mormon, mais c'est un.
Il est croyant, c'est tout.
Oui, il est croyant et il sait faire la prière, tu vois. Enfin, c'est là où tous les autres ne savent pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Donc pour un nihiliste, je suis désolé, mais excuse-moi, Marie, je t'ai coupé.
Compris. Oh, j'ai l'habitude.
Bon, arrête, ça suffit maintenant, hein, tu sais, il y a jurisprudence. Vas-y, vas-y.
Non, mais voilà, enfin, moi, ce que tu dis, oui, sur les. C'est vrai qu'elles sont assez courtes, elles sont un peu les scènes un peu d'envergure, mais parce que justement, je pense que ce qui peut plutôt peut-être nous faire retenir, c'est ces scènes-là quand le personnage de Jennifer Lawrence rencontre celui de Timothée Chalamet et qui, du coup, a fait tant pis, c'est la fin du monde, vas-y, on sort ensemble. Et en fait, t'as ces relations qui se nouent, qui se seraient sûrement jamais rencontrées, en fait, au final, parce qu'elle l'a rencontrée à la caisse d'un supermarché dans lequel elle bosse, parce que justement, après tout le bad buzz, elle a changé de vie, quoi. Et en fait, c'est peut-être plus ces petits trucs-là que tu vas retenir que des grosses scènes, parce que c'est pas le propos du film, quoi.
Après, la scène avec les drones, c'est quand même aussi un gag.
Ouais, bien sûr.
t'as envie que ça se encore une fois t'as envie
qu'il se plante. On en a perdu un. On en a perdu deux.
Et c'est assez bien foutu. Enfin, vraiment, je les ai trouvés plutôt bien foutus.
C'est un film Netflix. Hein, y a de l'argent quand même, tu vois. Et puis c'est un film Netflix avec DiCaprio, tu vois. C'est même pas une question d'avoir Adam McKay. C'est que c'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est le pourquoi c'est leur film de l'année. C'est parce qu'en fait, DiCaprio a accepté de faire ce film.
C'est parce que tout le cast, en fait, tout le cast parle beaucoup plus aux gens qui vont regarder Netflix que le nom d'Adam McKay, en fait.
Exactement. Voilà.
Puis DiCaprio a son petit moment network là où il pète un câble à la télé et tout. Enfin, je trouve hyper bien dans ce rôle là. Il est incroyable aussi.
Ça a toujours été un film Netflix dès le départ. Enfin, c'était pas prévu que ça sorte au cinéma ou quoi que ce soit. Hein.
Ces films-là, ils sortent plus au cinéma, Pierrick.
Non, mais c'est pas ça.
Tu écoutes ça le temps pour un
des
film.
Fois, c'est... Non, mais des fois, c'est prévu pour une major ou un truc comme ça. Puis finalement, la pandémie fait que bon, on va le vendre à Netflix parce qu'on a besoin de l'argent.
C'est un film qui a été financé par Netflix, mais enfin, en tout cas, qui a été prévu pour ça. Mais c'est vrai que par contre, d'après ce que j'ai compris, le film s'est tourné pendant la pandémie, et du coup, en fait. Comme il y a beaucoup de choses qui étaient dans le scénario qui se sont finalement révélées être arrivées et être plus ou moins pertinents par rapport à la pandémie, bah, il a dû en fait partir dans une direction où il fallait foutre le plus de conneries possible dedans, parce que sinon ça devenait plus vraiment une comédie, ça devenait vraiment un reportage fictionnel, mais un truc où c'est voilà. Il y a notamment, en fait, il m'a expliqué ce truc là. Il y a une taxe, en fait, une taxe Covid qui a été exonérée aux États-Unis pour les riches. Et en fait, en gros, il avait la même idée avec une taxe météorite. Et il s'est dit, putain, mais si je le mets, en fait, ils vont croire que je tranche le truc. Alors qu'en fait, en vrai, donc il l'a coupé. Il l'a coupé de son film, quoi, parce qu'il disait que c'était beaucoup trop proche de la réalité, quoi.
Après, moi, j'avais vu que la bande-annonce et je trouve le film beaucoup plus drôle que dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, il y a pas vraiment de gag qui fonctionne, en fait.
Ouais, c'est parce le côté névrotique des personnages qui te fait, fait sourire, quoi, on va dire, parce que les mecs, ils sont vraiment névrotiques, tu vois, ils prennent des Xanax, l'autre, elle s'enfile un truc entier.
C'est ça. Et j'avais peur que ce soit que ça, les personnages, en fait. Et je les trouve plutôt hyper bien vraiment dessinés, et leur évolution est belle. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a...
Ils ont des vrais arcs, quoi.
Voilà, l'once d'humanité, elle est chez ces scientifiques, en fait. Et les autres, bah, c'est du gag sur gag, quoi.
Moi, pour compléter ce que tu dis, je pense que c'est ce qui fait, en fait, Adam McKay, parce que Step Brothers, en fait, t'as beau être des personnages complètement cons, en fait, si tu t'attaches pas à eux, et en fait, s'il y a pas un vrai truc... Moi, tous les personnages secondaires de Step Brothers, je les trouve absolument incroyables, parce qu'ils sont vraiment... aussi ubuesque qu'ils puissent paraître, ils sont vraiment réalistes, en fait. Il y a un point où tu te dis, putain, mais ouais, le beauf là, lui je le connais, lui le patron je le connais, je les ai vus, en fait, si tu veux, quelque part. Et je pense que c'est ça sa qualité, en fait, de base, et il l'a retranscrit dans celui-là, quoi.
Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. On a fait le tour. Si vous voulez vous faire votre propre avis, donc Look Up sera dispo sur Netflix, donc à partir du 24 décembre. Et on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Spider-Man No Way Home, le dernier blockbuster Marvel, un gros carton dans les salles françaises en ce moment. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite.
Salut l'équipe de Capture Mag. Bon, bah, moi j'ai bien aimé ce Spider-Man No Way Home. Alors je me suis pas mis à hurler comme le reste du public. En revanche, j'ai applaudi lorsque Tante May sort sa fameuse phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». J'ai trouvé que c'était très bien amené, très bien écrit. Et puis, pour ce qui concerne la simplicité du scénario, les mises en scène plutôt classiques, bah je ne m'attendais pas à voir du Villeneuve ou du Nolan. Donc, je pense que tous les spectateurs ont vu ce qu'ils s'attendaient à voir. Donc, je ne vois pas de raison d'être aussi critique comme vous avez pu l'être. Et puis, pour ma part, bah j'en ai eu pour mon argent. Je reverrai ce film avec plaisir, ce qui n'est pas le cas de la plupart des films du MCU.
Je voulais dire une seule chose à propos de ce film. C'est nul.
Salut à tous, l'équipe de Capture Mag. Je vous suis depuis quelques mois maintenant. J'adore vos chroniques. Je vous trouve assez acerbe, assez dur parfois, mais plutôt juste. Je voulais parler de la chronique que je viens d'écouter sur le nouveau Spider-Man. Moi, en tant que fan de comics et fan du premier Sam Raimi, il y avait une inexactitude sur le nouveau film et aussi sur celui de Sam Raimi. La schizophrénie de Norman Osborn, du Bouffon Vert, elle est pas représentée que par le masque. Elle est aussi représentée par les effets de miroir. Donc et là je vais faire un peu comme vous, c'est bien beau de vouloir critiquer une œuvre populaire pour rentrer dans la hype, mais encore faut-il bien le faire. Sur ce, bonne journée.
Une petite réaction, Stéphane.
Là, le monsieur, en fait, il part du principe que j'ai, comment dire, que j'ai pas vu les Sam Raimi, apparemment, ou que je les ai pas vus depuis longtemps. Mais en fait, au-delà du fait, moi, je prenais juste un exemple. En gros, la schizophrénie, elle n'est pas traitée de façon visuelle, cinématographique, avec à travers le langage du cinéma.
Dans le dernier Spider-Man.
Dans le dernier Spider-Man, contrairement au Sam Raimi. Et j'ai utilisé l'exemple du masque. J'aurais pu effectivement utiliser l'exemple du miroir, mais...
Mais t'avais déjà parlé 45 minutes.
Voilà, mais et puis comme le masque, il est dans le film, de toute façon, c'est pour ça que je parle de ça, quoi, comme il est dans le dernier, quoi. C'est juste pour ça que je dis ça, hein, c'est tout. Enfin, bref. Donc, c'est moi qui ai raison, monsieur, c'est tout.
Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Pierrick, Stéphane, merci.
C'est Clémence.
Merci Clémence.
Et puis merci Alain à la technique.
Merci à toutes et à tous.
Et merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis si ça vous a plu et que vous voulez nous encourager, que vous voulez d'autres émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, donc les Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant.
Et grâce à vous, on a des papillotes et des petits chocolats au pied du sapin. Merci.
Merci. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse. Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.